Éternel notre Dieu, on veut te bénir. On veut te bénir, Seigneur, pour cette période des fêtes, Seigneur. Te bénir, Père, parce que tu n'as pas abandonné les hommes, tu ne nous as pas abandonnés, malgré les apparences parfois lorsqu'on lit le journal, lorsqu'on regarde l'état du monde, Seigneur, lorsqu'on regarde les relations entre les hommes partout sur la terre, lorsqu'on entend parler de couples qui sont en difficulté, de conflits dans nos familles, Seigneur, et alors même qu'on se prépare à aller pour la période des fêtes visiter nos familles, plusieurs d'entre nous appréhendons, Seigneur, des relations qui ne sont pas simples. Mais tu n'as pas abandonné les hommes. Tu n'as pas abandonné les hommes, mais tu es venu apporter la paix, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour ça, Seigneur. Je te prie, Père, de venir parler à nos cœurs ce matin de cette paix que tu avais promise, de cette paix que tu as apportée, de cette paix dans laquelle tu nous invites maintenant à entrer afin de la partager, Seigneur. Viens parler à nos cœurs là où nous sommes, chacun d'entre nous, dans notre réalité, dans nos défis, nos obstacles à la paix, Seigneur. Nos défis personnels qui chassent si facilement de nos cœurs cette paix que tu veux donner, Seigneur. Viens nous parler ce matin, viens nous rencontrer. Et si quelques-uns parmi nous ce matin ne te connaissent pas personnellement, Jésus-Christ, viens ouvrir les yeux de leur cœur, afin qu'ils découvrent qui tu es véritablement. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on va se promener dans plein de passages dans les Écritures. Alors, je ne vous invite pas à tourner dans un passage. Si vous êtes bien à l'aise, prenez vos Bibles, soyez prêts à faire la course avec moi. Autrement, on va afficher ça un petit peu en avant. Mais on parle de paix. On est en train de terminer la série sur la paix. Puis, une des choses qui me frappait pendant que j'étais en train de lire la presse, même hier matin, je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à la presse, tout ça, mais j'étais sur la presse plus, puis il y a des petites vidéos, tout ça. Et puis, il y avait une série de vidéos sur trois familles qui ont traversé l'épreuve du lac Mégantic. Et puis, ils sont allés tourner donc des entrevues avec eux quelques temps, si je comprends bien, après le drame. Cet automne et puis en début d'hiver. Et à travers tout le drame de ces gens-là, on connaît les enjeux qu'il y a derrière ça, des enjeux humains, probablement de la négligence, des choses comme ça. Mais il y a une des choses qui frappe lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on se tient informé, et des fois ça devient lourd à porter, une des choses qui frappe, c'est que nous ne vivons pas dans un monde en paix. Le monde en général n'est pas en paix. Puis en même temps, lorsque j'étais en train d'écouter ces trois entrevues-là, ces trois reportages-là, ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point les gens cherchent la paix. Il y a beaucoup de gens autour de nous, ici dans cette salle, qui cherchent la paix. L'humanité cherche la paix. Beaucoup de gens s'appliquent, que ce soit dans les relations, que ce soit la paix intérieure, que ce soit dans les relations internationales, entre les États, que ce soit dans nos familles, que ce soit plus localement. Beaucoup de gens s'appliquent à chercher la paix, mais ne trouvent pas cette paix. Dans Romains 3, voici ce qu'on lit au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle du cœur humain, d'accord? Voici ce qu'il dit. S'adressant à ce moment-là à des chrétiens, il leur dit, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? » Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il parle de la réalité du cœur humain. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. C'est pas évident à accepter comme parole, n'est-ce pas? C'est toute une affirmation sur l'humanité. Un peu plus loin, Paul dit au verset 10, « La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Et l'apôtre Paul est en train de dire ici dans les Saintes Écritures que l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Parce qu'on ne le trouve pas par nous-mêmes dans nos propres cœurs. Et la semaine dernière, on a vu ensemble dans ce passage, ce cantique de Zacharie, le Bénédictus, on a vu ensemble que ce Sauveur qui venait, qui avait été annoncé Jésus-Christ, c'est lui qu'on fête avec la période des fêtes, avec Noël, ce Jésus-Christ venait justement pour nous conduire sur le chemin de la paix. Il venait pour nous montrer cette voie-là. Alors, la question que j'ai pour vous ce matin, si j'ai connu personnellement Jésus-Christ, Si j'ai compris que c'était pas juste un personnage historique, c'était pas juste un quelqu'un pour inspirer les gens qui sont dans la misère, mais que véritablement il s'agit du Fils de Dieu qui est venu pour nous conduire sur le chemin de la paix. Si j'ai connu le chemin de la paix à travers Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, dans cette société-là? Qu'est-ce que je peux faire dans cette société qui, à bien des égards, cherche la paix? Beaucoup de gens le cherchent. Vous avez des amis à l'école, vous avez des amis qui ont des conflits. Et vous voyez, ils essaient de régler ces conflits-là. Au travail, il y a des tensions. Les gens ne demandent pas mieux que de dire « on veut avoir la paix, on voudrait que les relations se passent bien ». Si j'ai connu que Jésus est celui qui nous conduit sur le chemin de la paix, qu'est-ce que je fais avec ça? On va répondre à cette question-là ce matin. Mais juste avant, je voudrais faire une toute petite révision, très, très rapide. Comme je l'ai dit, on termine la série. Alors, c'est une série en trois dimanches. Voilà deux semaines avec Alexandre qui apportait le message de la parole. Nous avons vu ensemble dans l'Ancien Testament que Dieu avait promis qu'un jour, il viendrait nous conduire dans la paix. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'un libérateur, un sauveur viendrait pour apporter la paix parmi les hommes. Et on a commencé de voir ensemble avec Alexandre que cela allait être acquis à un grand prix. C'est au prix d'un immense sacrifice. La semaine dernière, on a vu ensemble la naissance de Christ, la naissance de Jésus de Nazareth, qui est venu, qui est non seulement Jésus de Nazareth, mais qui est Dieu le Fils de Dieu. Et que c'est lui qui est l'accomplissement de ses promesses, de ses prophéties qu'on avait dans l'Ancien Testament, et qu'il est venu nous conduire sur le chemin de la paix. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si l'Ancien Testament dit vrai, si les prophéties dans l'Ancien Testament sont vraies, si Jésus est effectivement l'accomplissement de ces prophéties-là, et si Jésus est venu nous conduire sur le chemin de la paix, et où cette paix-là? Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le libérateur est venu nous conduire sur le chemin de la paix. Elle est où cette paix-là? Je ne sais pas si vous lisez les journaux. Elle est où cette paix-là? Ultimement, cette paix-là va être complétée au moment du retour de Jésus-Christ. Et entre-temps, nous vivons dans une période de chevauchement où il y a eu la première venue de Jésus. Il est venu nous montrer le chemin de la paix, mais nous attendons son retour. Et la paix véritable, parmi les hommes, partout, ne va être présente que lorsque Jésus va revenir. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, on a vu ensemble dans le cantique de Zacharie, que Zacharie, qui avait seulement l'Ancien Testament, il n'avait pas vu le ministère de Jésus, ne pouvait pas tout saisir, cette opération de sauvetage que Dieu avait annoncée et que Jésus est venu accomplir, se réalise en deux phases. Zacharie avait en vue la phase 2, le retour de Jésus-Christ, plus que la phase 1, sa première venue où il vient mourir sur cette croix en sacrifice. C'est lui le sacrifice pour le pardon des péchés. Et Zacharie ne pouvait pas saisir tout cela. Où est cette paix actuellement si Jésus, le libérateur, celui qui nous conduit dans la paix, est venu il y a 2000 ans? Où est-elle? Elle est premièrement dans nos cœurs, parce que nous attendons son retour. Quelques passages rapidement, dans 2 Pierre 3. Dans 2 Pierre 3. Versets 12 et suivants. Voici ce que Pierre dit. Attendez et hâtez l'avènement, le retour du jour de Dieu. La fin des temps, comme on dit souvent. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette justice-là, ça va être le règne du prince de paix. Et effectivement, la paix va être visible tout le temps, constamment, dans tous les rapports, dans toutes les relations. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Cette paix-là est donc disponible maintenant, mais elle est premièrement dans le cœur de celui qui trouve en Jésus le chemin de la paix. Parce que la paix ultime, ce monde de justice que nous attendons, où des situations comme l'acte mégantique vont être assumées avec une entière intégrité, par exemple. Il n'y aura plus de larmes comme ça, mais voyez-vous, il va y avoir de l'intégrité, il va y avoir de la vérité. Cela va se produire seulement au retour du Seigneur Jésus. Un autre passage dans Romains 16. Romains 16, versets 19 et 20. Pour vous, c'est l'apôtre Paul qui parle encore, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Encore une fois, il parle de notre marche à nous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, est-ce que Paul est en train de parler de la victoire que le croyant va vivre en rentrant de plus en plus dans cette marche-là chrétienne? Je pense que c'est plus large que ça. Et Paul entrevoit déjà le jour où véritablement le prince de ce monde, celui qui garde ce monde dans l'obscurité, sera totalement vaincu, écrasé. Parce qu'il dit encore un peu de temps. Mais pour vous, marchez avec le Dieu de paix. Marchez avec le Dieu de paix. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux, voyez-vous? Jésus est venu une première fois, il nous a montré le chemin de la paix. Il a ouvert cette voie-là. Puis on regarde autour de nous, puis on ne la voit pas, la paix. Et vous n'avez pas besoin de chercher très, très loin. Vous avez juste regardé dans votre maison, proche de vous, dans votre famille. Tout à l'heure, je l'ai dit dans la prière, on s'en va visiter nos familles pendant les fêtes. Il y a des gens ici qui appréhendent les repas des fêtes parce qu'il y a toutes sortes d'histoires, de conflits. Donc, on n'a pas besoin de regarder loin. On attend, on est vraiment entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, nous autres, si on a découvert en Jésus-Christ le chemin de la paix? Bien, on annonce la paix. On apporte la paix. Si c'était Fred Pellerin qui est en train de prêcher ce matin, il dirait, on devient des faiseux de paix. On devient des faiseux de paix. C'est ça notre rôle. Dans le sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, Jésus a apporté une parole qui, moi personnellement, m'inspire énormément. On trouve ça dans Matthieu 5. Je veux vous le lire, d'accord? Parce que ça devrait être comme ça qu'on se voit. Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous connaissez le foulard blanc? Vous connaissez le drapeau blanc? La paix. Ça devrait être notre emblème à nous. Vous comprenez? On devrait être les premiers en toutes circonstances à juste dire, arriver au milieu des conflits, arriver au milieu des tensions, puis être les premiers à juste agiter le drapeau blanc. Parce qu'on est là pour venir aider à porter la paix. Ça devrait être notre emblème. On est appelé à être des faiseux de paix. Et à quelque part, ça là, ça devrait être l'emblème de ceux qui ont connu Jésus et qui ont connu en lui le chemin de la paix. Parce que la vision de Jésus ici dans le sermon sur la montagne, c'est beaucoup plus large que simplement annoncer un message de paix. C'est plus large que ça. Ta réputation, si tu as connu Jésus-Christ dans ta famille, au travail, avec tes voisins, à l'école, avec les amis, notre marque à nous devrait être ça. Lui, c'est un pacifique qui apporte la paix, qui vient puis qui est là pour aider les gens à se réconcilier. Parce qu'en faisant ceci, je suis comme mon Père Céleste. Je suis un fils, une fille de Dieu, parce que je procure la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre-temps si j'ai découvert en Jésus le chemin de la paix? Mais que j'attends son retour parce que je vis dans un monde où partout autour de moi, cette paix-là n'est pas évidente. Je suis là pour entrer dans cette paix, apprendre à marcher dans cette paix et apporter la paix autour de moi, procurer cette paix-là. Est-ce que c'est comme ça que tu es connu? Est-ce que tu es connu dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, avec tes voisins? Si j'allais voir tes voisins par une belle journée de tempête de neige, où il y a un voisin qui sort la souffleuse puis qui en envoie plus sur le driveway de l'autre. Si j'allais voir tes collègues de travail puis je disais, « Hey, qu'est-ce que tu aurais à me raconter sur lui? Parle-moi de lui. J'aimerais ça que tu me parles de lui. « Oh, c'est un employé modèle, il est sérieux, il rentre toujours à l'heure, il fait son chiffre. » Non, mais parle-moi de lui dans les relations au travail. Ce serait quoi le parfum qui, qui se dégagerait de ce qu'on aurait à me raconter sur toi. Si j'allais voir ton frère ou ta sœur, puis je disais, il est comment à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui apporte la paix? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours la petite phrase, le petit moment pour faire exploser tout ça? Dans ton couple, dans ton foyer, est-ce que tu es pacifique ou tu es constamment en récrimination, en train de calculer, en train de mesurer? Voyez-vous, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas quelque chose de si simple. Et pourtant, dans sa grâce, Dieu nous a montré, à travers Jésus-Christ, le chemin de la paix. Notre emblème à nous, ça doit être ça. Et dans toutes les circonstances auxquelles vous pensez, conflit de famille, conflit au travail, voisinage, peu importe les situations, on devrait toujours être les premiers à sortir ça. Arrêtez, on va se parler. Parce que j'ai découvert un autre chemin qui m'a apporté la paix. Voyez-vous, dans les Écritures, l'Évangile est appelé la bonne nouvelle de la paix. Tournez avec moi dans Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, ensemble. Un passage que les chrétiens connaissent des fois dans des chants, tout ça, puis c'est comme une espèce de cri de ralliement pour nous, ce passage-là. Il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans parce que le contexte, c'est un contexte de combat spirituel où je veux être là, je veux être prêt à vraiment honorer Dieu. Verset 14, Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, on est dans l'armure ici, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le message que Dieu nous a donné, le message que Dieu a annoncé, le message que Jésus est venu livrer, qui est venu accomplir par son propre sacrifice, s'appelle la bonne nouvelle de la paix. Évangile, c'est tout ce que ça veut dire dans le texte, dans la langue originale. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là est une bonne nouvelle de paix. Une paix, premièrement, entre Dieu et les hommes. Tournez dans Colossiens avec moi, s'il vous plaît. Je l'ai dit, on se promène pas mal ce matin. Colossiens 1, ensemble. Vous pratiquerez pendant les fêtes si vous n'êtes pas familier avec les références bibliques. Là. Vous placerez tout ça pour être prêt en janvier pour qu'on se promène ensemble. Colossiens 1. On va lire une longue section du verset 19 jusqu'au verset 23, d'accord? L'Évangile est un message de paix parce que Dieu est venu pour apporter la paix aux hommes. Et on parle premièrement d'une paix avec Dieu. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, parlant de Jésus, d'accord? Alors c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu le Fils. Toute la plénitude de Dieu était en lui lorsqu'il est venu sur cette terre, lorsqu'il s'est incarné. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. À travers ce que Jésus venait accomplir, Dieu réconciliait toute chose avec lui-même. Il offrait cette réconciliation, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La paix à quel prix? Au prix d'un sacrifice énorme, au prix du sacrifice du Fils de Dieu, qui vient et prend sur lui le prix, le poids de toutes nos querelles, de tous nos châtiments, de toutes nos méchancetés, je m'excuse. Comme un châtiment sur lui-même. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. À vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, par son sacrifice à la croix, pour vous faire paraître devant lui, purifiés, alors saints, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Le message qu'on a annoncé, la bonne nouvelle, c'est un message de paix, mais ça commence avec une réconciliation avec Dieu. Et si ça, ce n'est pas quelque chose d'évident pour toi, c'est là que ça commence. C'est là que ça part. C'est ça Noël. C'est cet enfant qui vient, mais qui vient pour mourir sur une croix, afin que tu puisses faire la paix avec Dieu, que Dieu puisse faire la paix avec toi par le sacrifice de Jésus sur cette croix. Et c'est vraiment un acte de foi qu'on fait à ce moment-là. Puis à ce moment-là, une fois que j'ai cru en Jésus-Christ, ce qui me reste à faire après ça, c'est d'entrer dans cette paix. Tout à l'heure, Annie a parlé du livre qu'elle a lu, « Running Scared », puis de la conférence qui va venir avec Ed Welch. Et souvent, on revient sur ces choses-là dans l'Église. Voyez-vous, je crois que ce qu'on a à faire, nous qui avons connu Jésus-Christ, on a connu le chemin de la paix, ce qu'on a à faire, c'est apprendre à entrer dans cette paix-là maintenant pour devenir des faiseurs de paix. On doit apprendre à marcher, à entrer dans cette paix-là quotidiennement. Et vous le savez, si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous le savez, c'est un apprentissage. Ça s'apprend tous les jours. Chaque matin, je me relève et je veux apprendre ça. Mais Jésus est venu et il nous donne sa paix. Il nous donne une paix qui est particulière. Il dit dans sa parole, « Je vous donne ma paix, je ne donne pas la paix comme le monde la donne. » Ce qui est différent avec la paix que je vais trouver en Jésus-Christ, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne commence pas par les circonstances. Vous savez, souvent, lorsqu'on veut avoir la paix, la semaine dernière, j'ai utilisé l'expression « fichez-moi la paix ». On se concentre sur les circonstances autour de nous sans tenir compte du fait que le vrai domaine où la paix doit venir s'établir, c'est à l'intérieur de moi-même. Et lorsque Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « Je vous donne ma paix », Jésus se prépare à aller à la croix, d'accord? Il se prépare à vivre un moment, le seul moment où il y a eu un conflit à l'intérieur de la Trinité. C'est un mystère pour moi, ça. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en harmonie depuis toujours, puis j'aime dire ça comme ça, je ne sais même pas si c'est pas une hérésie que je suis en train de dire, d'accord? Mais au moment où Jésus est sur la croix, puis il s'écrie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, Jésus est fait péché. Et donc, au sein de la Trinité, là où il y a toujours eu cette harmonie parfaite, il y a une fracture à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est, dans ce Dieu-là qui ne change pas, il y a quelque chose qui change. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix », il se prépare à aller à cet endroit-là, à la croix. Il connaît l'angoisse qui l'attend. Ce n'est pas les coups, ce n'est pas la croix, ce n'est pas le sacrifice. Évidemment, c'était un homme, c'était beaucoup de souffrance. Mais lorsqu'on lit le récit, c'est évident dans le passage, c'est évident que ce qui a été le plus difficile à vivre pour Jésus-Christ, c'est d'être fait péché et donc de devenir aux yeux de son Père un pécheur. Lui qui était pur, lui qui était saint, lui qui était en harmonie parfaite, il est devenu tout ce que vous pouvez imaginer comme péché à ce moment-là. Et Dieu, son Père, ne pouvait pas faire autrement que de détourner le regard de lui. Parce que Christ prenait sur lui toutes les fautes. Je sais, des fois, c'est difficile à imaginer tout ça, toute cette scène-là, mais imaginez un instant. Les pires crimes, les pires péchés que vous connaissez, que ce soit des abus envers des enfants, des viols ou des choses comme ça. Et imaginez un instant qu'on vous donne cette étiquette-là. Vous êtes désigné comme celui qui a fait ces choses-là. Comment les gens vous regardent à ce moment-là? Il y a quelque chose qui change, n'est-ce pas? Christ est devenu à ce moment-là péché. Alors lorsque Jésus dit à ses disciples quelque temps auparavant, « Je vous donne ma paix. Je ne donne pas la paix comme le monde donne la paix. » Il est en train de parler de cette paix intérieure qu'il vit lui-même à ce moment-là, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient du fait qu'il est en train de faire la volonté de son Père. Il est en train de marcher avec son Dieu. Il s'en va vers la croix. Il sait que ça va être un moment d'angoisse. Il sait qu'à cet endroit-là, il va perdre cette paix-là parce qu'il va être fait péché. Mais il l'a en lui, ça. C'est profond, c'est là, parce qu'à chaque instant, il fait la volonté de son Père. Et c'est cette paix-là qu'il veut nous donner. Maintenant, pour nous, qui avons connu que c'est Jésus le chemin de la paix, le défi pour nous maintenant, c'est d'entrer dans cette paix, d'apprendre à marcher dans cette paix-là. Et ça, c'est un processus, ça c'est un cheminement. J'ai essayé de le résumer ce matin pour mettre tout ça plus pratique, d'accord? Avec des leçons. Parce qu'on sait, que lorsqu'on va arriver avec le message, ce message de paix, la paix ne va pas venir automatiquement, n'est-ce pas? Quand vous arrivez dans votre famille et vous commencez à parler de Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est l'harmonie? C'est la paix? C'est ça le paradoxe avec ce que Jésus a apporté. Jésus a dit, alors qu'il nous conduit sur le chemin de la paix, en même temps, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la division. Pourquoi est-ce qu'il y apporte la division? Simplement parce que si c'est par lui qu'on va accéder à la paix, tous ceux qui vont le rejeter vont s'opposer. Et donc, dans une famille, il y en a un qui va reconnaître en Jésus le chemin de la paix, un autre ne le reconnaîtra pas. Et cela même va susciter des tensions. Donc, lorsque je suis en train d'apprendre à entrer et à vivre cette paix-là que je trouve en Jésus-Christ, il va y avoir des obstacles à ça. Il va y avoir des obstacles quotidiens. Si vous vous dites, ouais, mais là, est-ce que je suis chrétien, moi? Parce que, je dis, souvent, je ne vis pas la paix. Ah, t'es chrétien. Remets pas sans doute. Mais tu dois apprendre à entrer dans cette paix-là, à marcher dans cette paix-là. Cette paix est renouvelable et elle doit être renouvelée tous les jours par le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas un endroit où tout d'un coup, t'es transformé, puis après ça, tu n'as plus besoin de Dieu, tu marches dans la paix tout le temps, la vie est belle. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un apprentissage où Jésus m'a fait connaître la paix avec mon Dieu, j'ai fait la paix avec lui, j'ai fait la paix intérieure, et chaque jour, j'apprends à marcher dans cette paix-là. Il va y avoir des obstacles quotidiens à la paix. Dans votre cœur, premièrement. Combien d'entre vous ont pris un temps avec Dieu le matin, puis vous allez dans la prière, puis « Oh, j'ai tellement du bon temps avec Dieu! » Aujourd'hui, là, ça va être une journée là, pour Dieu, je vais être glorifié! Et vous sortez de votre petit coin secret à vous, puis première personne que vous rencontrez, paf! Conflit! Puis là, vous laissez tomber, je m'excuse, une vacherie! Je me dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Il me semble que j'étais rempli du Saint-Esprit! Chaque jour, cette paix-là doit être renouvelée. Et c'est pour ça que partout dans le Nouveau Testament, vous voyez les auteurs dire « Que la paix de Dieu soit avec toi ». Paul commence chacune de ses lettres pratiquement en disant « Que la paix de Christ vous accompagne ». C'est la parole première qu'on devrait prononcer lorsqu'on croise quelqu'un d'autre qui a cru en Jésus-Christ. Jamais présumer que la personne vit ça à ce moment-là. Juste lui rappeler que la paix de Dieu soit avec toi. Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Que la paix de Christ t'accompagne. Que ton cœur soit gardé en lui. Alors, quatre leçons. Quatre manières qu'on peut travailler là-dessus pendant la période des fêtes, sérieusement, à tous les jours, d'accord? Quatre manières où je vais chercher à entrer dans cette paix-là qu'il nous donne. Premièrement, Romains 8:6. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Romains 8:6. On va aller voir quatre passages brièvement. Romains 8:6. Je dois reconnaître et accepter que je suis maintenant un fils, une fille de Dieu, et cela implique que je dois renoncer au péché. Si j'ai connu en Jésus la paix avec Dieu, je sais que cette vie-là que je vivais avant, où mes désirs, mes passions, mes vices me guidaient souvent, je sais que c'est mon ancienne vie. Et je dois maintenant renoncer au péché. Romains 8:6. Et l'affection de la chair, et il n'est pas en train de parler juste du corps ici, il est vraiment en train de parler de la disposition à faire le mal. Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Je m'excuse, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et la première chose que je dois faire, très concret, quand je me lève le matin, je dois réaliser qui je suis. Je dois réaliser que je suis passé de la mort à la vie. Et cette ancienne vie où je poursuivais des passions personnelles, où je poursuivais souvent des vices, des péchés, je dois renoncer à ça. Ici, à quelque part, tu es en train de te dire, « Oui, mais je suis chrétien, je suis supposé vivre la paix. » Écoute, prends un temps de prière cet après-midi. Tu te prépares à la période des fêtes, ça va être le temps des réjouissances, ça va être le temps de tous les excès aussi. Puis prends le temps simplement d'aller dans la prière, puis de faire le point avec Dieu, puis de dire, « Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je n'ai pas renoncé à ces œuvres-là de la chair? » Tu ne trouveras pas la paix si tu ne renonces pas. Et je ne suis pas en train de parler ici que tout va être facile après, puis ça va être simple. Je parle de cet endroit, ce moment où je prends la décision de renoncer. C'est la première chose qu'il faut faire. Parce que tant et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a des choses dans ma vie où j'affectionne le péché, je suis attiré, j'aime ça. J'y prends plaisir, mais je renonce pas. Constamment, à chaque instant, je suis en train d'attrister l'Esprit. Et je suis là d'une part, j'affectionne ces choses-là, je désire retourner vers mes petits péchés secrets à moi, mes moments où je suis juste là pour moi, mes moments où je dorlote de l'amertume, toutes sortes de choses. Et puis en même temps, je voudrais vivre cette paix-là. Puis je dis, Seigneur, mais pourquoi je vis pas la paix? Mais c'est parce que tu essaies de vivre avec un pied dans un royaume puis un pied dans l'autre. Ça marche pas, ça. Faut que tu t'arrêtes puis tu vois que tu essaies de marcher sur une ligne. Puis tu renonces dans ton cœur. Tu confesses ça au Seigneur. Première chose. Alors, est-ce qu'actuellement dans ta vie, il y a quelque chose que tu affectionnes, qui est en fait cette source qui te prive de la paix? Première chose à faire, renoncer au péché. Deuxième chose à faire, soyez des faiseurs de paix. Cherchez en toutes circonstances à contribuer à la paix. Tournez avec moi dans Romains 14, juste un petit peu plus loin. Romains 14, 16. Dans le contexte ici, Paul est en train de parler du fait qu'on a beaucoup de liberté dans le Seigneur, mais pour certains, il y a des choses qui vont... Ils vont être mal à l'aise avec ça, puis est-ce que j'ai la liberté de faire ça si pour quelqu'un d'autre, ça va le mettre mal à l'aise, tout ça. Puis Paul est en train de dire, fais pas de tes libertés une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Verset 16, que votre privilège, cette liberté que tu as, ne soit pas un sujet de calomnie qui fasse jaser les gens parce que tu manquerais d'égard envers eux. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de dire, j'appartiens à un autre royaume maintenant. J'appartiens à un autre royaume et si avant dans mon royaume, dans mon univers à moi, ce que je pensais qui contribuait à mon bien, c'était ma bouffe, mes plaisirs, pourvoir à mes besoins à moi, être concentré sur moi d'abord et avant tout, j'appartiens maintenant à un autre royaume. Et dans ce royaume-là, j'ai appris que mon bonheur se trouve quoi? À faire la justice, à chercher la paix, à contribuer constamment à la paix. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça change les relations. Toujours tendu entre ton frère et toi? Toujours tendu dans votre relation de couple? Mais est-ce que vous cherchez à contribuer à la paix? Est-ce que vous êtes cette personne qui, promptement, rapidement, sans compter, renonce à certains privilèges? C'est ça que Paul dit ici. Ne fais pas de ton privilège l'occasion de calomnie. Renoncer à certains privilèges simplement par amour pour l'autre, pour me donner pour l'autre. Est-ce que c'est comme ça que tu es? Ça, c'est concret. Quand vous allez vous en retourner tout à l'heure, vous allez avoir des opportunités de ne pas renoncer à vos privilèges. Mais vous allez avoir aussi des occasions de renoncer à vos droits, de renoncer à quelque chose qui vous revient de droit. Parce que procurer la paix, être des faiseux de paix, c'est celui qui agite le drapeau tout le temps, puis qui est prêt à dire, regardez, là, ça va prendre des concessions, il va falloir qu'on mette un peu d'eau dans notre vin, il faut qu'on vienne se rejoindre à quelque part, il faut qu'on arrête les hostilités, il faut arrêter de calculer, mettez vos carnets de côté, arrêtez de prendre des notes, puis soyez généreux. Et c'est ça être un faiseur de paix. C'est réaliser que Jésus-Christ, Dieu du haut de son ciel, a décidé de mettre de côté son calepin sur ta vie, puis il a dit non, là, si je prends en note tout ce qu'il a fait, ça ne marchera pas. Il va falloir que quelqu'un fasse un sacrifice, puis il va falloir que quelqu'un mette de l'eau dans son vin, que quelqu'un assume à sa place, que quelqu'un fasse des sacrifices, et Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. renoncer au péché. Est-ce qu'il y a une place où je suis tenu dans le péché? Deuxièmement, contribuer constamment à la paix. Ça doit être notre réputation. Ça doit être notre emblème, ça. Dans notre relation à la maison, je ne sais pas c'est comment chez vous depuis un bout de temps, c'est comment dans les relations, c'est comment dans les relations de travail. Je le sais, vous pourriez juste arriver puis dire « Non, mais moi, je veux la justice. Je veux le droit. » Et ce n'est pas nécessairement que c'est mal. Mais vous comprenez que c'est souvent pas par là qu'on commence pour pouvoir faire la paix. On a parlé de Nelson Mandela il y a quelques semaines avec son décès, tout ça. Et ce qui a frappé le plus dans la vie de cet homme-là, c'est pas ce qu'il a fait avant d'aller en prison. Il avait commencé à conclure dans son cœur que on fera pas la paix par des gestes pacifiques. Il va falloir peut-être soulever une armée, une guérilla, des armes. Puis ils ont réussi à se débarrasser de lui en quelque sorte, ils l'ont jeté en prison. Ce qui l'a frappé dans sa vie, ce qui a été marquant, c'est comment il s'est comporté lorsqu'il est sorti de prison. Et qui est arrivé avec cette idée de paix et réconciliation, où on va dire le mal qui est fait, mais on ne pourra pas réclamer constamment justice. Mais le privilège que j'ai comme chrétien, c'est que je sais qu'il a fallu que quelqu'un d'autre paye le prix à ma place. Jésus-Christ. Et donc, je peux être prêt à mon tour, régulièrement, souvent, dans les relations autour de moi, à assumer les conséquences négatives, les sacrifices qu'il y a à faire parfois, pour pouvoir apporter la paix. Est-ce que tu es un faiseux de paix? Est-ce que tu procures la paix? Colossiens 3,16, troisième, il m'en reste deux petites leçons. Colossiens 3,16, tournez avec moi. Colossiens 3, 13 à 16. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Puis c'est comme si c'est la conséquence après. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et cela demande qu'on se supporte les uns les autres, qu'on soit là pour vivre avec les faiblesses de l'autre, accepter les faiblesses de l'autre, puis pardonner, puis juste être là pour porter l'autre, afin que cette paix-là, la paix de Christ à laquelle on est appelé, soit là dans nos cœurs. J'espère que vous voyez que c'est un apprentissage, cette affaire-là. Ça prend du temps. Ça ne se vit pas du jour au lendemain. Il faut apprendre à marcher, à entrer dans cette vie de paix-là. Et j'apprends ça en renonçant au péché. J'apprends cela en étant celui qui construit la paix avec les autres. Celui qui contribue à la paix. J'apprends cela en supportant les autres, en aimant les autres. Et enfin, dernièrement, j'apprends cela dans la prière. Tournez avec moi dans Philippiens 4. Philippiens 4. Parce que cette bataille-là pour la paix, dans vos foyers, dans vos relations de travail, dans la ville ici, parce qu'on veut annoncer ce beau message-là, cette bataille-là commence dans nos cœurs. Et ça se passe dans la prière. À cet endroit où je viens apporter toutes les injustices que j'ai dû subir pour contribuer à la paix, toutes mes inquiétudes, toutes mes préoccupations. Je vais là dans la prière, Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ça le secret de Jésus. C'est ça le secret de Jésus. Tout ce qu'il vivait à l'intérieur de lui, il le partageait à son Père. Il allait dans la prière parfois des nuits entières. Il emportait des fardeaux, tous les jours. Mais c'était ça son secret. Il allait vers son Père et disait, « Père, tu vois la souffrance des hommes, tu vois la rébellion d'Israël, tu vois Jérusalem qui s'apprête à me rejeter, Père. Mais je suis là pour faire ta volonté, je veux juste te servir. » Jésus nous a montré le chemin de la paix. Jésus nous a conduits dans le chemin de la paix. Il n'est pas revenu encore. Et jusqu'à son retour, on va vivre dans un monde qui ne sera pas vraiment en paix. Mais notre mandat à nous, c'est d'apprendre à entrer dans cette paix-là. Elle est véritable, elle est vraie. Ça se vit quotidiennement comme chrétien de marcher dans cette paix-là. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Il faut que j'apprenne à examiner ma vie pour dire, est-ce que je marche avec un pied dans mon ancienne vie puis un pied dans le royaume de Dieu? Est-ce que je me suis encore affectionné, je me suis attaché à des choses qui me tiennent dans ces agissements, ces comportements-là égoïstes de péché? Est-ce que mon cœur affectionne des choses qui ne me conduiront pas dans la paix de Dieu? Parce que c'est le mal, parce que c'est le péché. Je dois renoncer à ces choses-là. Quotidiennement, je dois décider que ma marque à moi, ça va être ça. Si ma réputation jusqu'au jour où j'ai connu Jésus-Christ, ça a été d'être celui qui sait défendre ses droits. Moi, j'ai appris très jeune que ma plus grande qualité, c'était que j'avais une grande gueule. J'étais petit, j'étais pas fort, j'étais pas tellement bon pour me battre. Mais viens-t'en, par exemple, je vais te planter avec ma baboune. Je le faisais avec tout le monde, mes parents, mes amis, tout le monde. Puis quand j'ai connu Jésus-Christ, et je vous le dis, c'est un cheminement, et c'est long. C'est long parce que des fois, je m'entends parler puis je suis encore en train d'argumenter. Au lieu d'être celui qui procure la paix, au lieu d'être celui qui supporte. Et on doit apprendre ça. Parce que notre rôle à nous, c'est d'aller apporter ce message de paix qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et on va terminer avec un verset où Alexandre nous avait conduit dans le premier message. Dans Ésaïe, chapitre 9. Verset 5. Un jour, Jésus-Christ va revenir. On va vivre dans un monde où il n'y aura plus ces combats-là. La justice va régner parce que le prince de paix va régner. Mais d'ici là, nous l'avons connu, il nous a conduit sur le chemin de la paix. Et on est appelé à marcher à sa suite. Car un enfant nous est né, verset 5, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'aimerais inviter les placeurs à s'avancer pour la distribution des éléments, puis on va juste aller dans un mot de prière ensemble. C'est vraiment génial, juste avant Noël, de prendre ensemble le repas du Seigneur pour se rappeler ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ceux qui ne sont pas familiers avec ce qui va se passer, bien, alors que Jésus prenait un dernier repas avec ses disciples, il était en train de fêter la Pâque. Les Juifs fêtaient la Pâque depuis très longtemps. Et la Pâque, c'était ce mémorial où on se rappelait le sacrifice d'un agneau. D'accord? Et à ce moment-là, Jésus leur dit, cet agneau-là qui a été sacrifié depuis maintenant des siècles par les Juifs, annonçait en réalité un sacrifice parfait. Un agneau pur et sans tache, le Fils de Dieu qui viendrait s'offrir en sacrifice. Et Jésus leur a expliqué ce soir-là, lors de ce repas, qu'il s'apprêtait à donner sa vie en sacrifice. Et il leur a dit, voici, prenez du pain, prenez un morceau, ceci est mon corps. Et prenez une gorgée de ce vin, car ceci est mon sang. Et Jésus leur a dit, chaque fois que vous allez vous rassembler et que vous allez prendre ces éléments, rappelez-vous du sacrifice que j'ai fait pour vous. Alors pour nous, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Ça nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. On va laisser les placeurs distribuer les éléments, on va aller dans un champ ensemble. Seigneur Jésus, nous attendons ton retour. Seigneur, tu es venu ouvrir ce chemin de la paix par ton sacrifice sur la croix. Tu nous as conduits dans cet endroit où on a pu faire la paix avec toi, notre Dieu, sachant que tous nos péchés sont pardonnés, sont purifiés. Tu as déposé ce jour-là, Seigneur, dans nos cœurs cette paix, de savoir que notre histoire ancienne est justement, de l'histoire ancienne à tes yeux, Seigneur, et qu'un jour nouveau, une vie nouvelle commençait. Mais Seigneur, nous, Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, dans nos cœurs, dans nos familles, autour de nous, partout. Et on attend, Seigneur, on languit après ce jour où la justice va véritablement régner. Non seulement à l'extérieur, puis chez les autres, mais chez nous aussi, dans nos attitudes, nos comportements. Seigneur, on voudrait cesser de pécher. Puis juste être comme toi, Jésus. Et on attend ce moment où la lutte va s'arrêter, Seigneur. Mais nous voulons te remercier, te rendre grâce, Seigneur, parce que déjà par ton esprit, tu nous conduis sur le chemin de la paix. Tu nous instruis dans cette paix, Seigneur. Tu nous fais grandir à ton image, Seigneur Jésus. Et chaque fois que nous péchons, comme on se le rappelle ce matin avec ce mémorial, ce symbole, chaque fois que nous péchons, nous pouvons aller vers toi, Seigneur, te confesser ces péchés, reconnaître qu'on n'a pas contribué encore une fois à la paix, qu'on a péché d'une manière quelconque et s'en repentir, Seigneur. Seigneur, plusieurs d'entre nous, pour la période des fêtes, on a à cœur d'apporter l'Évangile, d'apporter ce message de paix dans nos familles. Et on porte une histoire avec nous parce qu'on n'a pas toujours été des faiseux de paix, Seigneur. Et peut-être qu'il y a des jugements sur nous parce qu'on n'a pas toujours été justement des contributeurs de la paix par nos attitudes, nos comportements, Seigneur. Transforme-nous, donne-nous cette humilité d'être celui qui cherche, qui contribue à la paix constamment. Afin qu'on te glorifie, Seigneur, et qu'on puisse parler de toi en toute liberté, Seigneur Jésus. Et on sait que ce ne sera pas toujours reçu, mais on sait que tu conduiras, Seigneur, dans les prochaines semaines, quelques personnes dans nos familles, autour de nous, à se réconcilier avec toi, ô Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Merci pour ce pain, merci pour cette coupe. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.
Ses talents, c'est Dieu qui les donne.
Amen.
Gloire à Dieu pour ça. Quand on souligne, comme si on ne veut pas, c'est sûr que les gens s'investissent, mais toute la gloire au Seigneur qui a donné ces dons-là, puis on veut louer Dieu pour ça.
Amen. Merci. Merci, les gars. Merci à toute l'équipe. Merci pour. Belle bénédiction. Je veux juste vous mentionner, on est vraiment privilégiés. On a David qui est ici, qui dirige la louange. Puis on a Charles aussi, que vous avez découvert cette année, Charles Butin, avec ses tunes, ses chansons, ses pièces qui viennent du CD Yatal. Et je veux juste vous les mentionner parce qu'on est avant les fêtes. Si ça vous tente d'encourager les gars, c'est beaucoup d'énergie. Ils investissent des sous, énormément d'argent. Alors David, on le connaît un petit peu plus ici. Et puis Yatal, on est en train de travailler quelque chose, le band est européen, peut-être pour l'année prochaine. Alors, si vous voulez faire des beaux cadeaux pendant les fêtes, vous pouvez simplement aller vous procurer les CD. Écoutez, joyeuses fêtes, que Dieu vous bénisse. Invitez-vous les uns les autres, que personne ici passe les fêtes seul d'aucune manière, mais qu'on soit là les uns pour les autres. Soyez des bénédictions dans vos familles. Apportez ce message de paix. Soyez ces gens qui procurent la paix dans vos maisons, dans votre voisinage. Aimez les gens dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant la période des fêtes.